Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de Ma Préférence. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Chloé, bonjour Vanessa, bonjour Léo, bien entendu.
Et bonjour Karine.
Bonjour.
Notre invitée de ce soir.
L'invitée de Chloé.
Et oui, je commence alors.
Et oui, vas-y, je te laisse la main.
On part sur le théâtre. Alors voilà, en fait, moi, ce soir, vraiment, j'improvise totalement. Parce qu'en fait, j'ai passé une super journée avec un collectif de comédiens et de comédiennes, d'acteurs, d'actrices, que Lise Lafont, exactement, une comédienne que j'ai reçue ici, a créée. Et c'est la troisième fois qu'on se réunit. On se réunit une fois par mois pour faire des petits trainings caméra dans les locaux de Occitanie Film la plupart du temps. Mais la dernière fois, on a été au Grand 7. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, les filles.
Ah oui, c'est là où il y a l'avion, c'est ça?
Oui, je me doutais que toi, tu allais connaître. Tu as déjà été?
Je vais y aller prochainement.
C'est des studios qui ont été... c'est Master Film, je crois, qui possède ça. Et ils ont recréé des maquettes d'avions.
Génial.
On peut jouer comme dans un avion, c'est incroyable.
Il y a eu énormément de films tournés là-bas.
Moi, j'avais fait de la figuration pour un film dedans. Et là, on a eu accès à ce lieu hors norme pour faire nos petits training caméra avec Martin Le Gall. C'était super. Et aujourd'hui, on était entre nous et j'ai rencontré Karine Monod. Que je connaissais pas du tout, c'était la première fois que tu venais dans le collectif, toi?
Bah oui, puis c'est la première fois qu'on se rencontrait, oui.
C'est vrai, alors qu'on est sur Toulouse depuis
plusieurs années.
Plusieurs années, donc il était temps.
Voilà.
Et du coup, on s'est entraînés, on a fait une scène de César et Rosalie, pour tout vous dire. Le film avec Romy Schneider et l'acteur...
ça y est,
Yves Montand. Voilà.
Ah bah oui, de Claude Sautet.
On a parlé de ça toute la journée, mais au moment de le dire, on a le trou. Donc c'était très chouette. Et d'ailleurs, je le dis là, tu sais, le truc pas du tout intimiste, mais j'ai adoré ton énergie et je trouve
et
que
aussi, Chloé,
Karine est très solaire.
Tout le monde était très bien.
Vous ne pouvez pas la voir, mais elle a un sourire... assez fou et elle est très solaire. C'est vrai, non? J'en profite pour le dire. Voilà.
C'est gentil, merci.
Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un comédien dans cette équipe qui a de l'actualité théâtrale?
Et elle a lancé une bouteille à la mer, en fait.
Ouais, un peu comme ça, en n'y croyant pas trop. Et enfin, je me doutais, tout le monde a des choses à faire, mais là, ça tombait très bien parce que Karine joue la semaine prochaine et plusieurs choses hyper intéressantes à la CAF Poésie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rue du Thor. Et du coup, Karine me disait donc que, alors, un mardi par mois ou
je sais
le
plus
premier
si c'est
mardi
un par mois,
il faut
se renseigner. Tous les mardis, il faut se renseigner.
Il y a quelque chose qui s'appelle les rugissantes et c'est une carte blanche d'un spectacle. Il y a quelqu'un une compagnie qui va pouvoir venir lire une pièce, c'est ça?
Voilà, ça peut être des acteurs, des rugissantes autour d'un auteur, des rugissantes autour d'une thématique. Des rugissantes, voilà. Et puis là, la rugissante, elle a été passée à... Il y a le groupe Pulcinella, d'ailleurs, en deuxième partie de soirée.
Mardi qui arrive.
Mardi 12.
12
et
décembre.
En première partie de soirée, on fait une lecture de La fille de Barbe Bleue, qui est un texte non édité de Sarah Graal. Voilà, qu'on va faire découvrir au public.
À 19h30, tu me disais.
C'est ça, ouais.
Et donc, votre compagnie, comment elle s'appelle?
Nous, notre compagnie s'appelle En compagnie des barbares. Elle est née il y a une dizaine d'années, dans les années 2010, voilà. Et on ne monte des spectacles qu'à partir de la littérature, non théâtrale. On a deux axes de travail. Soit c'est de la littérature, donc notamment nos années d'après Annie Ernaux, ou des conférences pour des illettrés avec de la poésie contemporaine et des poètes contemporains comme Cathaline Molnar. Donc des trucs qui sont un peu pointus et un peu pas connus du grand public. Ou alors on monte les écritures de Sarah Freinet. Voilà, okay, qui est ma complice de compagnie depuis qu'on a créé la compagnie, quoi. Donc Sarah,
c'est toi qui a créé la compagnie avec
Sarah.
On
a créé ensemble, voilà. Mais et on s'est entouré d'artistes de tous bords, des scénographes, des musiciens. Et il y a plein de gens qui ont traversé la compagnie et de plusieurs générations différentes. Et le dernier spectacle qu'on a monté est un spectacle sur la jeunesse qui s'appelle Il faut bien que je naisse. Et ça, c'est la dernière chose que Sarah a écrite.
Elle écrit les textes. Toi aussi, tu écris ou
non?
Que...
moi, j'écris pas du tout.
Toi, tu joues.
Moi, je joue.
Elle joue, Sarah aussi.
Je
ou
joue.
Est-ce qu'elle écrit
des fois, je fais un peu de prod. Et Sarah n'en joue pas. Elle met en scène.
D'accord.
Voilà. Et parfois, je l'aide à la direction d'acteur ou pas. Voilà, ça dépend.
C'est une bonne équipe, un bon duo, quoi.
Oui, oui.
Et
oui.
Vous êtes dans la compagnie au niveau des comédiens, comédiennes. Vous êtes nombreux, nombreuses.
C'est à géométrie variable.
En fonction des projets.
Des fois, on met des petites formes autour justement de poètes, d'auteurs très connus ou pas connus, mais qui sont pas des objets théâtraux, mais que nous, on transforme en objet théâtral, souvent en ovni théâtral. Et puis, l'autre partie, bah, c'est les écritures de Sarah. Et là, on avait monté un spectacle sur la transmission, de quoi on hérite. Transmission, petite histoire des objets des morts. Et jeunesse, il faut bien que jeunesse, ces deux spectacles ont été écrits à partir d'entretiens et d'enquêtes que Sarah a fait pendant plusieurs années sur le terrain. Sur, ben, c'est quoi la jeunesse aujourd'hui quand on n'a pas, quand on n'est pas jeune, c'est quoi aujourd'hui? Voilà. Comment ils fonctionnent? Quels sont les réseaux? Est-ce que, en fait, fondamentalement, ça a changé? Est-ce qu'il y a une nouvelle métaphysique ou pas? Voilà. Quelles sont les préoccupations? Et c'est un dialogue, en fait, entre quelqu'un qui n'est plus jeune et des jeunes qui sont vraiment jeunes et qu'on voit vivre dans des chambres. Et ça, normalement, peut-être la saison prochaine sur Toulouse.
Oh,
voilà, rejouer la saison prochaine sur Toulouse.
Et donc, ça a été joué il y a quelques temps.
Ça a été créé cette année.
Créé cette année.
De fin 22, début 23.
Ce serait à la CAF Poésie aussi?
Ah non, là, c'est un gros plateau, là.
Ouais. D'accord.
Ouais, non, c'est un gros plateau.
Oh, trop bien. Voilà. Bon, on va parler, en tout cas, de la semaine prochaine pour commencer, parce qu'il y a, ça a l'air d'être super intéressant, cette compagnie. Redis le nom,
En compagnie des barbares.
En compagnie des barbares.
Oui, parce qu'on sait pas qui est le barbare.
Ça pose les choses.
Et oui, puis, c'est un poème de Cavafis aussi, puis c'est, enfin, ça pose la question de la langue aussi, et de celui qu'on comprend pas la poésie, par exemple, peut être barbare, puisqu'on la comprend pas. Aujourd'hui, plus personne, enfin, c'est pas vrai, pas plus personne. Mais
oui,
elle est moins accessible. Voilà, avant, les poètes étaient dans les bars et ils gueulaient leurs poèmes et tout le monde buvait et applaudissait. Voilà,
aujourd'hui, c'est vrai plus difficile. C'est plutôt moins souvent des poètes. Enfin, si, mais c'est souvent les alcoolisés.
Oui, ou les nouveaux poètes sont les slameurs.
Oui, c'est vrai, il y a du slam.
Le rap,
les scènes ouvertes de slam, d'ailleurs.
Super, le slam, d'ailleurs.
Et c'est un trait. Ben, voilà, Quai Tempest, par exemple, c'est.
Grand corps malade.
Grand corps malade. Mais il y en a plein.
J'ai entendu qu'il y avait des scènes ouvertes de slam vraiment dans Toulouse. Oui. Il faudra qu'un jour je...
Tout à fait, oui.
À la CAF Poésie, ils enregistrent une émission de rap en direct, en fait, où le public peut venir.
Oui, c'est avec éphémère, je crois, non?
J'en sais rien du tout. Je sais que le...
Oui. Ça, hein.
Bah, ça s'appelle rap, R-A-P, avec les petits points. Mais pour le coup, Karine, si tu reviens régulièrement à la CAF Po, il y a peut-être moyen qu'on se croise, parce que ça m'arrive d'être bénévole et de tenir la buvette là-bas.
Ah ben, nous, on a une belle complicité avec la CAF Po, ouais. Oui, on y joue toutes nos créations, en fait. Et des fois, même...
Oui, mais c'est pas la première fois que j'entends parler
des rugissants. Ils nous coproduisent et nous aident à monter
les spectacles. Donc, il y a une buvette. Ça, c'est intéressant pour
dire
aux gens. Et donc, c'est rue du Thor.
Des petits pâtés de légumes délicieux.
Voilà, c'est des choses qui sont importantes à dire.
C'est une vraie tuerie. C'est bio, c'est local et tout. C'est trop, trop beau.
C'est génial comme lieu, parce que c'est un lieu... Enfin, c'est très, très foisonnant, la programmation.
Il y a deux ou trois salles.
Deux salles. Et c'est jamais n'importe quoi. C'est en même temps pointu et populaire. Quoi.
Bah, ils sont orientés beaucoup dans le théâtre populaire de gauche. Il y a Gaspard.
Oui.
Je n'ai plus son
nom. Il y a les chroniques de Gaspard.
Il y a les chroniques de Gaspard. Il y a les tentatives d'épuisement qui fait tous les deux mois où il parle de l'actualité. Et j'ai été allée au dernier. Je ne sais pas si tu es allée au dernier.
Non, j'ai pas pu.
Et il m'a impressionné. Pas facile, celui-là. Mm. Les dernières actus n'étaient pas faciles à traiter. Et il fait aussi les comptes rendus de conseils municipaux. C'est-à-dire qu'en fait, il va au conseil municipal, il y passe la journée et il fait après un compte rendu. Et il y a une vraie, un peu une volonté, de former un petit peu le public d'éducation, de duc pop. Et donc, on est très orienté. En fait, la CAF Poésie reste encore très orientée de gauche, populaire, militant. Il y a les petits stickers, un peu avec des slogans, qu'on peut se procurer.
Donc, et il est drôle.
Il est très drôle, ça va mourir de rire.
Très drôle et nous faire rire avec l'actualité en ce moment, c'est...
Le dernier, il m'a impressionné, c'était pas facile.
Comment il s'appelle, Gaspard?
Gaspard.
Chauvelot.
Chauvelot, non, Chauvelin, Chauve quelque chose.
Je pense que si on tape Gaspard, CAF Poésie...
Oui, et puis ça s'appelle Tentative d'épuisement.
D'accord, très bien, c'est déjà super. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la semaine prochaine, donc le mardi, la lecture... c'est à 19h30 et après, à partir du mercredi jusqu'au
jeudi.
Du jeudi, pardon. Oui. Le mercredi, c'est off.
Parce que mercredi, il y a Pulcinella, je crois qu'il y a deux soirs, ils font concert.
D'accord, donc c'est jamais off. La CAF propose toujours plein de choses. Et donc, à partir du jeudi, il y a Nos années spectacles. Tu peux nous en parler un peu aussi de celui-ci?
Alors, c'est vraiment un spectacle que, justement, Sarah a adapté à partir... C'est un texte qu'elle a adapté à partir du roman autobiographique de Annie Ernaux. Annie Ernaux, donc, elle est prix Nobel de littérature en 22, D'ailleurs, merci Annie, elle nous a permis de diffuser plus largement notre spectacle.
Vous avez eu contact avec elle directement?
Déjà, elle a eu la gentillesse de nous donner les droits, ce qui n'était pas évident. Et Sarah a fait une adaptation. Donc, le texte est écrit en trois temps, en trois mouvements. Il y a elle, parce qu'en fait, elle parle d'elle de façon comme si c'était quelqu'un d'autre. Donc, il y a elle, il y a on, la société, et nous, sa génération. Et donc, elle va traverser 60 années d'histoire en écrivant sur son histoire, l'histoire de sa génération et l'histoire de la société française de la fin de la guerre à 2006 environ. Et donc, c'est une traversée qui fait 200, presque 300 pages. Hein. Et pendant toute cette traversée, quand on lit, on entend des musiques, on entend Bourville, on entend... On a plein de musiques qui nous trottent dans la tête parce qu'elle les cite dans son écriture. Et l'envie de Sarah, au départ, ça a été de faire une lecture pour faire découvrir Annie Ernaux. C'était en 2018. Et donc, on a fait une lecture musicale avec un Gigi. Donc, on a pris le parti d'enlever le « L » et de ne faire que le « on » et le « nous ». Et de ne prendre que des événements qui, vraiment, nous ont semblé être des virages marquants et marqueurs de notre société. On le faisait avec un DJ qui passait des vinyles et qui alternait avec... Donc, ça répondait avec le texte.
En direct.
En direct. Et puis après, qui finissait à l'ordinateur. Et comme ça... un an plus tard, bah, ça tournait. Et en fait, moi, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et j'ai proposé qu'on le monte en spectacle. Et qu'on aille vraiment plus loin. Et que du coup, que la musique soit intégrée dans le spectacle. Et qu'on travaille avec un objet, avec deux acteurs. Et donc, on a proposé à Elliot, qui a 30 ans de... J'exagère, il a peut-être 33, 34 ans de moins que moi. Mais voilà, on est deux générations très différentes. Et un garçon, une fille, lui a les cheveux longs, moi j'ai les cheveux courts. On a travaillé sur une scénographie qui est une table du temps. Parce que, en fait, c'est quoi notre société, si ce n'est que si on voulait retracer à travers quelque chose, un objet visuel très, très, très marquant, ben, nous, on a pensé à la famille, voilà. Parce qu'elle parle beaucoup de sa famille aussi dans toutes ses autobiographies, que ce soit... elle parle de son père, de sa mère, de comment elle a changé de classe sociale. Elle parle beaucoup de son avortement.
Elle était dans le... Tu parlais de manifeste des 343 que tu m'avais conseillé, Tiffaine, en BD.
Oui.
Et moi, j'ai pas eu trouvé la BD encore parce qu'elle était empruntée par toi, d'ailleurs, je crois.
Certainement.
Et du coup, j'ai vu le documentaire, moi, récemment.
D'accord.
Il y a un documentaire. Et donc, c'est comme ça que tu me parlais de Annie Ernaux. Je me dis, ah, je l'ai vu récemment. Ah oui, c'est là-dedans.
Non, mais c'est une femme extraordinaire parce qu'elle a vécu les 30 glorieuses, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, le développement, la modernité, et puis la contemporanéité, et puis la fin des illusions.
Ah,
et on vient de me dire qu'il fallait que je me rapproche du micro. et donc, pourquoi je disais ça? Donc, on a trouvé un objet scénographique qui nous parlait et on a fait une table du temps avec un accessoiriste de cinéma qui nous a fait une table du temps, c'est-à-dire la table des familles qui démarre à 5 mètres d'ouverture, où ces grandes tables, on était 22 autour de la table et on avait 5 plats et t'avais les enfants en bout de table, les aînés tout en haut, et puis cette idée de tribu, et puis comment la famille petit à petit, en fait, et la table elle-même a réduit. Voilà, donc je vous dis pas ce qu'on fait de la table parce que c'est une table c'est une table qui se transforme, en fait. Oui. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va vers notre époque contemporaine et qu'on va plutôt vers le data center. Voilà. J'en dis pas plus.
Et ça, c'est à quelle heure, du coup?
Et donc, ça, c'est à 19h, jeudi, vendredi, samedi.
D'accord.
Et c'est dans la cave. On joue dans la cave. Donc, c'est une petite salle de 50 places.
Donc, il faut réserver. On peut réserver à la cave Poésie?
Oui, oui, absolument. On peut réserver, oui.
Donc, par téléphone ou sur le site, j'imagine, Internet?
Je sais pas
sur
si on...
le
oui.
site. Alors, par téléphone, je sais pas, mais je sais
oui,
que sur le site,
c'est
on a un lien. On peut... Mais c'est juste qu'il y a des petits frais en plus, je crois. Il y a des frais de service, mais c'est pas grand-chose non plus.
Oui, c'est peut-être 3 centimes.
Ça passe. Sinon, il faut arriver tôt. Peut-être et tenter sa chance.
Non, mais par téléphone, ça le fait.
Mieux de réserver.
Mieux vaut réserver. Mieux vaut réserver.
Oui, par téléphone, ça fonctionne bien.
Voilà, on l'a déjà joué l'année dernière, on l'a déjà joué aussi l'année d'avant, mais on revient régulièrement.
Ça fonctionne, oui, et si vous faut en revenir. Mais c'est vrai que ça donne très envie. Enfin,
ils nous ont soutenus à la création, c'était super. Quand on l'a créé en 2019, Yann et toute l'équipe ont été là, et ça, c'était vraiment génial.
Super. Bah, du coup, on a à 19h30 le mardi la lecture et après toute la journée du jeudi au samedi le spectacle. N'hésitez pas à vous rendre à la Cave Poésie. Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir que tu viennes comme ça un peu à l'improviste.
Bah oui, merci Chloé.
C'est trop gentil. Et on va commencer faire une pause musicale.
Ouais, je crois que
et c'est... d'ailleurs c'est toi qui l'as choisi parce que c'est un peu en rapport avec votre spectacle.
Absolument.
Donc oui, on peut dire ce que c'est avant la démarrer. Vas-y, dis-nous.
Constat amer de Kerry James.
Voilà.
J'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains. Nous, je veux y croire, mais j'ai bien peur que ce nous ne soit qu'illusoire. Tous adeptes du chacun pour soi, personne ne nous respecte et je crois savoir pourquoi. On est avares et divisés. On se fait avoir, on ne forme même pas une communauté. Préoccupés par le besoin, serait-on tous myopes, incapables de voir loin? On veut pas le bien, on veut le gain, quitte à détruire l'intérêt commun. On vit dans l'inconscience des enjeux, mais malgré nous, les médias nous ont mis dans le jeu. Manipulés comme des pions, tout le monde mise sur notre division. On subit la xénophobie, incapable de s'organiser en lobby. On sera toujours des mendiants aux portes de leur monde, tant qu'on croira que le respect ce qu'ils mendent. Le respect s'impose et la lutte est économique. Observe la communauté asiatique. Nous on fait beaucoup de bruit et peu de chiffres. On donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Impunément, les médias nous salissent car conscients que nous insulter ne comporte aucun risque. On fait peur à personne, on est la risée de tous et nos émeutes se déroulent loin de l'Élysée. À part brûler quelques voitures de pauvres gens comme nous et saboter nos propres structures, où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations et où en est-on? Même si ça me fout un coup au moral, force est de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale. Dans le collimateur des médias, y'a pas plus visé que nous. Alors toi, explique-moi pourquoi y'a pas plus divisé. On se plaint du racisme, mais ne l'est-on pas nous-mêmes? C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains. Les Marocains contre les Tunisiens, les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains, les Turcs contre eux, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés. Chacun veut diriger, chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question qui sont les plus racistes, y'a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes, je mets le doigt où ça fait mal, c'est normal que ce texte vous gêne. Y'aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Dois-je préciser ma vision? Tant qu'on se prendra pour ce qu'on n'est pas, on courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas. La pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes. Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème. Et pour ça nous salissent, réalisent, tu sers d'idiot utile. Tant que tu n'as aucune vision, si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton? Tu veux faire tomber le système, vomis la pilule. Et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse. Elle doit être pensée, et je sais qu'on ne mène pas une révolution de froc baissé. Ceux qui entrent en politique nous trahissent, se complaisent dans le rôle de l'arabe ou du noir de service. Il suffit de peu pour les corrompre, non pas que le système les trompe. On ne sert de serpillière que lorsqu'on rampe. T'as perdu et t'es perdu quand tu te mets à espérer devenir quelqu'un en ayant ton identité. Ils ont du mal à durer car la trahison est jetable. Et chaque traître s'assoit sur un siège éjectable. Quant à ceux des nôtres qui réussissent, ils se voient contraints de fuir avant que la jalousie les punisse. Car dans le cœur des envieux et dans les yeux des incapables, la réussite te rend coupable.
Est-ce une excuse pour justifier l'égoïsme et fuir le passé en Lexus? Difficile de tendre la main sans se faire couper le bras. Mais si je m'occupe pas des miens, qui le fera? Y'a que chez nous que le succès débouche également sur l'impasse, car les derniers veulent te tuer pour la première place. Et tes frères disparus, que tu continues à pleurer. C'est pas des flics qui les ont butés. On est les premières victimes de notre propre violence, le signe de notre profonde ignorance. On se bute pour du hash, de la coke ou du cash. Et bientôt, on se butera pour un clash. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir, tu vois parfois ton pire ennemi. Je ne serai jamais votre leader, je n'en ai ni la vertu, ni la valeur, ni la rigueur. Si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir essayé. Et si j'ai une prétention, que ce soit celle de vous aimer. Et celui qui aime ne triche pas, je tresse un port.
Et bonjour Pascal.
Et bonjour Tiffaine.
Comment vas-tu en cette douce nuit d'hiver? Nous, il fait nuit au moment où on enregistre.
Ouais, il fait pas nuit. Enfin, c'est pas la nuit quand même. Pensez pas qu'on enregistre. Il fait nuit.
Regarde par la fenêtre.
Bah, il fait jour noir, quoi.
Ah, mais...
Après, peu importe à laquelle. Peut-être que les auditeurs nous écouteront en plein soleil.
C'est vrai. J'espère.
En pleine journée.
Ouais, j'espère aussi. Ici, pour l'instant, il fait nuit. Je vous le confirme.
Bah, le soleil se couche à 17h et des poussières, donc c'est normal.
C'est ça.
Un peu de lecture, donc parce qu'on vient de parler théâtre. On t'attendait pour la lecture.
Comme c'est la nuit, je vais vous faire frissonner aujourd'hui.
Ah, on frissonne à retardement, c'est Halloween après l'heure.
Parce que je vais vous parler d'un polar, enfin un thriller. Là, ça porte bien le terme de thriller. Ça s'appelle « Ce qu'il faut de haine ». C'est un livre de Jacques Saucé, un auteur français. Donc je vous raconte un peu l'histoire. On est dans une forêt du Morvan. Et en faisant son footing dominical, ce matin-là, Alice Pernel, une jeune étudiante en première année de médecine, découvre un corps. Choquée, bon, le saurait à moi, hein, elle contacte immédiatement son père qui a couru l'hélico pour la soutenir, car ce qu'elle a vu, c'est littéralement sidérée. Bon, il faut dire qu'au-delà du fait qu'il n'est jamais agréable de tomber sur un cadavre, celui qu'elle a découvert a été tellement martyrisé et abîmé qu'il n'est même pas possible de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc vous imaginez
un peu.
Ah oui,
quand même, les sévices, ils ont dû être chauds.
La gendarmerie du secteur se saisit immédiatement de l'affaire, évidemment, et après une analyse de la dentition, on n'avait que ça, on sait désormais qu'il s'agit d'une femme, qu'elle s'appelle Valérie Fraisse, et qu'elle a eu un parcours professionnel assez atypique. Brillant, mais atypique. Alors, elle est diplômée de l'école polytechnique. Elle a travaillé pour de grosses entreprises du CAC 40 en tant que DRH. Et ses anciens employeurs lui doivent des restructurations au prix de nombreux licenciements, dont certains ont même abouti à des suicides. Alors, elle apparaît, d'après les témoignages, comme quelqu'un de très froid, carriériste, sans empathie, bref, un personnage tout ce qu'il y a de plus détestable, que même sa propre fille ne défend pas, c'est pour dire. Donc la victime étant domiciliée à Paris, l'enquête requiert aussi la collaboration de la PJ parisienne. Et par ailleurs, cette femme ne semblait pas avoir le moindre lien avec le lieu de son assassinat. Alors dès lors, beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi l'a-t-on trouvée là précisément? Quel lien a-t-elle avec le Morvan? La gendarmerie du village et la PJ ne trouvent pas de réponse. Et de son côté, Alice, la jeune étudiante, ne parvient pas à oublier ce qu'elle a vu. L'horreur totale. Pour arriver à un tel niveau de cruauté, il faut une haine incommensurable. Qui pouvait détester Valérie Fraisse à ce point et pour quelle raison? C'est ce qu'Alice veut comprendre. Et pour cela, elle va chercher de son côté. Et à sa manière, elle va faire avancer l'affaire. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. De l'autre côté, dans l'enquête officielle, les policiers sont perplexes. Il y a tellement de personnes qui auraient eu des raisons de se venger, mais avec autant de sadisme, ça paraît tout bonnement impensable. Alors, qui est capable de faire subir ça à un congénère? Voilà. Je ne vous en dis pas plus au niveau de l'histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est complètement impossible de lâcher ce roman, tellement l'histoire nous captive. Les personnages sont d'abord parfaitement bien léchés, le récit il ne faiblit jamais, pense à l'instant, il nous embarque dans ses multiples enquêtes, il alterne avec intelligence entre le témoignage du meurtrier qui rejoue le film en quelque sorte pour nous dévoiler peu à peu toute l'organisation qu'il a mise en place pour commettre le crime qui se veut parfait. Et puis, de l'autre côté, on a la progression des différentes enquêtes. Et l'auteur est très habile pour brouiller les pistes. Et il nous tient en haleine parce que des rebondissements, il y en a à foison. En revanche, vous vous en doutez, un petit avertissement, si vous êtes très sensible, certaines scènes sont vraiment, comment dire,
bien décrites,
presque insoutenables. Je dis franchement, personnellement, moi, je n'avais pas été aussi mal à l'aise en lisant certains passages depuis Tokyo de Moalder. Je ne sais pas si vous aviez lu ce roman qui était sorti il y a quelques années. C'est le genre de roman où la cruauté et le raffinement s'entendent pour imaginer l'inimaginable. Voilà. Mais alors, il y a un dénouement de feu. Voilà. Bon, j'arrête là. J'espère que je vous aurai donné quand même envie.
Ça tient en haleine. Ouais. Je comprends qu'on ne lâche pas le livre, là.
De lire Ce qu'il faut de haine de Jacques Saussé, parce que c'est un bon thriller, avec tout ce qu'il faut pour vous faire frissonner, donc. Mais bon, n'est-ce pas ce qu'on demande d'abord à ce genre littéraire, finalement ? C'est de frissonner.
Si, c'est sûr.
Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup lu ces temps-ci. Il faut préparer les fêtes. On est un peu charrette de tous les côtés, mais bon.
Un livre bien raconté comme ça, ça suffit. Hein,
oui, pas c'est que, au contraire. Étant donné l'intensité qui est là, je pense qu'il peut largement faire le travail.
Oui, ça peut être un cadeau de Noël, du coup.
Oui, complètement.
C'est peut-être réservé aux amateurs du genre. Je dis pas qu'il est pour tous les lecteurs, mais ceux qui aiment le genre thriller, ils vont forcément adorer parce que c'est vraiment très très bien fichu. Et je vous dis, on lâche pas le bouquin jusqu'à la dernière page et le dénouement, ben on le connaît qu'à la dernière page.
D'accord.
Voilà.
Bah merci beaucoup, Pascal.
J'ai envie de savoir maintenant.
Eh ben, tu le liras. Ouais, ton avis.
Un message privé, alors on fera ça.
non, je vais le lire. Ça me fera lire.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes à vous et puis à tous nos auditeurs. Et puis, je vous dis à l'année prochaine avec d'autres romans.
Merci beaucoup.
Merci,
Pascal.
À l'année prochaine.
Au revoir.
Et c'est à ton tour, Vanessa.
Ah oui, dis donc, attends, c'est le dernier avant les vacances. De Noël, je m'en rendais pas forcément compte.
Eh ben, je viens de l'apprendre en même temps que toi. Mais oui, du coup, parce qu'en principe, ça, il va y avoir le congé de Noël. Donc oui, du coup, le prochain sera en janvier.
Ah oui, c'est notre dernier. On va rester dans le frisson. On va rester et je vais vous poser une question. Les filles, si je vous dis slasher.
Je connais.
Slasher, oh non, c'est encore un truc que je suis à la ramasse.
Le slasher, c'est comme le disait Pascal quand on parlait quand elle parlait de son livre, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir mangé, faut pas regarder en mangeant, quoi.
D'accord.
En gros.
Je vois
elle adore ça, Vanessa.
Malicieux de Vanessa. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, alors?
Mais un slasher, c'est style Scream.
D'accord.
Souviens-toi l'été dernier.
C'est des films avec de
Mortel
l'angoisse.
Saint-Valentin. Avec un serial killer.
Oui, qui tue D'accord. tout le monde les uns après les autres, en gros.
Et un slasher, c'est un serial killer ou c'est des films?
Ouais, c'est des films, en fait, où t'as un serial killer et c'est gore. Ça part de tous les côtés. Tu sais pas sur quel pied danser. Tu cherches qui est le tueur, s'il y en a un, s'il y en a plusieurs. Enfin, voilà. Et puis ça... Ouais, ça dégomme à fond,
oui,
quoi. Tu sais pas qui va mourir, mais tu sais qu'il va y avoir... Un beau petit panel sympathique. Mmh. Donc voilà, donc le slasher, hein, voilà, c'est un film de genre ou une série de genre, puisqu'il y a des séries aussi qui ont lieu. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix, alors il y en a deux, c'est Slasher.
Voilà. Ah, carrément.
Et c'est très prenant. Le premier, c'est des jeunes qui sont animateurs de colo, voilà, aux États-Unis. Et il y a une personne dans le groupe qui n'est pas très appréciée, qui fait des choses pas super. Et en fait, ils veulent lui faire comprendre que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Donc, ils vont un peu la punir, mais ça va partir dans tous les sens. Et ce qui va se passer, c'est que 10 ans plus tard, ils vont se retrouver au même endroit parce que y a des choses qui doivent arriver. Mystérieusement, on peut déterrer des choses. Donc, ils ont très peur. Donc, ils reviennent au même endroit. Et là, ils retrouvent une genre de pension qui accueille des gens un peu dans le besoin, qui sortent de prison ou autre. Et ils vont se retrouver là et ils vont se retrouver dans un moment très compliqué avec un serial killer qui a très très envie de vengeance. Voilà. Et donc c'est une série, je crois qu'il y a 8 épisodes, si je ne me trompe pas, pour le premier. Moi j'ai vu 2 saisons de Slasher et il paraît qu'il y en a 4. Donc il va y avoir une 3, une 4, voilà, qui va arriver. Donc à chaque fois on est assez surpris. Alors, je veux dire que le premier m'a vraiment emmené et que c'était assez assez impressionnant, assez prenant. Il y a eu du gore, ce qu'il fallait. Interdit au moins de 16 ans.
Hein. Ah oui, ah oui, quand même, ouais.
Et j'en viens à un film qui vient de sortir, qui s'appelle Thanksgiving.
Ouais.
Thanksgiving, la semaine de l'horreur.
Oh, et là, avec des dindes qui attaquent.
C'est pareil. C'est un moment, en fait, c'est un Black Friday à Thanksgiving. Et, et voilà, normalement, c'est un jour de fête. Tous les magasins sont fermés. Et là, ce grand magasin est ouvert. Il fait une super promo. Tout le monde attend derrière les barrières. Il y a un gaufrier qui est gratuit. Tout le monde veut son gaufrier gratuit et d'autres choses super. Sauf que, va y avoir des débordements. Il n'y a pas assez d'agents de sécurité. Et ça va partir en massacre. Voilà, ça va partir en massacre. Un an plus tard, on retrouve des personnes qui ont vécu ces moments-là. Donc, il y a des vidéos qui ont circulé, dont un jeune qui s'est amusé à faire des vidéos de ce qui se passait. Et petit à petit, il y a eu des blessés, il y a eu des choses comme ça. Et au fur et à mesure, il va y avoir des personnes qui vont mourir, qui étaient dans ce Black Friday et qui sont peut-être coupable ou non de ce qui s'est passé dans le Black Friday. Et donc voilà, il y a un serial killer qui est là, un ou plusieurs, on ne sait pas, qui va décimer petit à petit et qui va les faire apparaître à table. Donc voilà, on va avoir une
c'est
tête,
une critique
des
de
corps,
la
des machins,
société de consommation.
Ça va
un
être
peu.
Très très bien. Oui, c'est vrai que le début avec le Black Friday, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le fait de dire ils sont complètement fous, ils ont couru.
C'est quelqu'un qui a dû vivre ça un jour et qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces tarés.
Oui. Et puis en plus, il n'y avait pas eu de film comme ça, de serial killer à Thanksgiving. Voilà, donc le réalisateur quand même, c'est une pointure. Moi, je veux le dire comme ça parce que c'est le réalisateur des Hostels.
D'accord.
Ah, je sais pas si vous connaissez, mais les films d'horreur
de nom, moi, je
pure
connais,
puissance.
Mais... Moi, j'ai peur de regarder.
Je n'ai
Hérite.
Pas le courage de regarder les films d'horreur.
Non, c'est
moi,
génial.
Moi, il faut que je sois accompagnée et j'ai pas 36 000 amis qui aiment ce genre de. J'ai un ami une fois qui m'a dit, mais moi, la peur, c'est pas un sentiment que je recherche.
J'attends,
ça m'a fait
avec
beaucoup rire et je trouvais ça intéressant de penser comme ça, mais en même temps, moi, ça m'attire quand même. Je suis comme toi, Vanessa, j'ai envie de voir,
j'aime
mais
bien,
si je regarde toute seule, après,
ça permet d'expérimenter la peur et l'adrénaline dans un espace sécurisé. C'est pour ça, souvent, que les gens sont attirés par ça. C'est super intéressant.
C'est ça, et imaginez que ça sort juste d'une petite bande-annonce qui s'est amusée à faire, une fausse bande-annonce qui s'est amusée à faire avec des meurtres et tout, machin. Et puis après, il y a les gens qui sont venus qui ont dit « Ah non, mais c'est pas possible, tu vas nous faire un film comme ça. » Et il a dit « Mais moi, j'ai pas de scénario, j'ai pas de machin. » Donc, petit à petit, il s'y est mis et il nous a fait un beau film parce que c'est assez original et on est assez surpris.
Comment il s'appelle le réalisateur, du coup ?
C'est Eli Roth.
Eli Roth.
Celui qui a fait Hostel.
D'accord.
Hostel, c'est le pur. C'est des garçons qui partent à l'aventure dans un pays et on leur dit oui, viens là, tu vas voir, il y a des filles, il y a des super moments, tu vas t'éclater. Sauf que ces jeunes se font enlever, se retrouvent dans des prisons, un genre de prison. Et il y a des personnes qui ont donné des sous pour pouvoir s'amuser avec eux et les torturer. C'est génial. Et il y en a trois. Il y a trois hostels. Le 2 est bien, le 3 un peu moins.
J'aime bien la différence d'énergie entre Vanessa et Tiffen qui me fait des têtes, genre, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs?
Ok, j'avoue, je sursaute, je fais tout ce que vous voulez et
tout. Il en faut pour tous les
coups. Mais en fait, ça m'éclate parce que je trouve qu'à chaque fois, ils trouvent des choses différentes. Et là, dans Thanksgiving, ils trouvent des façons différentes de tuer les gens. Il fait, oh non, une poubelle peut tuer des gens. D'accord.
En vrai, je m'approche plus. Quelque part, ça me rappelle beaucoup de jeux vidéo aussi, comme ça, où il y a une façon complètement infinie de tuer des gens. Et c'est JDG qui en faisait des vidéos, les bazars du grenier, et c'est à mourir de rire aussi.
Bon, là, le film, hein, interdit aux moins de 16 ans. Franchement, c'est gore à souhait. Voilà. Mais pour se défouler, après une semaine bien compliquée, ça fait du bien.
Tant que c'est qu'en film. Voilà. C'est ça.
C'est juste en film, tu vois, ça fait du bien. C'est tu tapes pas sur quelqu'un qui t'a dit quelque chose ou autre. Tu regardes un film comme ça et waouh.
Wow, ça défoule. Il y a vraiment de défouler.
Oui, puis là, il y a vraiment, je pense, un contexte pour la surconsommation. Tous ces trucs.
Ça,
il a dû se dire que pour lui, ça doit être un peu aberrant ce truc de Black Friday et ça a dû lui donner des idées parce qu'il s'est dit parce que ça me rappelle. Quand il y avait eu l'émeute pour Nutella.
Oui, tout à fait.
Il y avait une promotion Nutella, je sais plus en quelle année.
Il s'était tapé dessus, quoi.
C'était l'horreur absolue.
C'est quand l'horreur vient de l'humain, en fait. Il y avait un autre truc, ça aussi, c'est quand l'horreur vient du banal, du quotidien. Et Junji Ito, il adore faire ça. Ça, c'est un maître pour ça.
Mais il y a un film, là, qui est sorti, Toledano Nakash, qui s'appelle Une année difficile.
Ah, oui, je
avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Et
oui,
ben, c'est voir, tout à fait ça.
Oui, oui, exactement. Ben, l'entrée, on en avait parlé, j'avais parlé de ce début-là, ça commence
tout
vraiment
à fait.
En Black Friday.
Voilà. Et ben, sauf que là, ça part en cacahuète.
Avec la musique de Jack Brel.
Ouais.
Ça mille temps. Ben, il y a un moment, oui, dans le film où il tournoie avec une espèce de, je sais plus, de télé,
mais
je crois.
Une télé, oui, il essaye
puis,
de l'attraper.
Il l'envoie
la
balader.
Télé,
alors là, voilà. C'est vraiment dans l'humour, pour le coup, c'est pas gore, mais quand même, tu te dis waouh. Et le pire, c'est que ça a vraiment existé.
Ça aurait pu aller loin. Ça aurait pu aller très loin. Et là, c'est ce que nous montre Eli Roth dans son film, quoi.
C'est à l'extrême.
Et puis après, elle a vengeance. Parce que y a eu ça, il y a eu des morts, il y a une personne qui était plus importante pour quelqu'un et qui a dit attendez, tous les coupables là, pam 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 pam, les uns après les autres. Au petit dîner, vous allez voir, ça va être sympa. Il va très très loin. Il va très très loin. Et c'est génial.
Il a réussi à pas se faire censurer. Je sais qu'il y a eu des histoires comme ça où, dans les films où il allait très très loin et les films s'étaient retrouvés interdits d'être en salle.
Bah là c'est moins de 16 ans. Donc ça va, on peut encore le voir, hein. Il y a pas de souci. Je sais qu'il y a certains films qui sont moins de 18, mais là voilà, moins de 16 ans, c'est comme Hostel et il va très loin. Mais la nature humaine est tellement bizarre, j'en dirai pas plus. Oui. Tu vois, on veut te taper dessus parce que ta voiture t'est garée, le mec il se met à côté et puis il est pas content. Tu lui dis mais c'est une place, vous avez pas le droit, c'est interdit de se stationner. Et le mec il commence à s'énerver contre toi alors que toi t'as raison. Donc ça
sent le vécu, ça.
Ça peut aller loin. Oui, ça peut aller très loin.
C'est arrivé aujourd'hui.
Non, c'est arrivé hier.
Et je suis allée voir le film juste après.
Non, j'étais le voir le film avant, donc tu vois, en fait, je m'imaginais le
mec. Oh, c'est
lui, s'il avait.
J'espérais avoir une poubelle proche de moi pour.
Oh là là,
ça aurait été sympa. Non, mais je ne vais pas jusque-là. Mais c'est vrai que. Tu vois des trucs assez hallucinants, quoi.
Oui.
Et c'est ta faute à toi, en fait.
C'est souvent ça, la mauvaise foi, ça va très loin, oui.
Comme au cinéma, tu sais, t'as le mec derrière toi qui te met les pieds et tu vois ses pieds, tu fais ça va, vous êtes
on
pas
gêné. On comprend pourquoi Vanessa aime les films d'horreur.
Ah bah elle a l'habitude d'aller au cinéma, donc je pense qu'elle a l'habitude des gens qui l'énervent.
Ouais, après je suis très éclectique, hein, donc je regarde de tout, mais c'est vrai que quand j'ai besoin de me défouler et tout, quand j'ai vu Thanksgiving, j'ai fait ouais, c'est trop bien, un film d'horreur, ça va me faire du bien. Et en effet, ça fait du bien, même si je sursaute et que je fais des bonds et que je cherche. Je mène l'enquête. Et là, je n'ai pas trouvé.
Pour le coup, moi aussi, quand je veux me défouler, je le fais, mais je vais pas voir des films d'horreur. Je vais tuer des Spartiates dans Assassin's Creed.
Voilà, chacun. Il y en a qui font de la boxe. Il y en a qui font de la boxe, du sport. C'est chacun ça. A sa technique. Et tant que c'est.
Sur ce, pour respirer après le frisson et les slashers, qu'est-ce que tu nous proposes, Tiffen?
Moi, j'ai juste envie de revenir sur l'horreur parce que je sais qu'il y a un film qui est sorti, je crois, en novembre. Peut-être que tu avais passé. C'est Five Nights at Freddy's. Qui est un préquel, en gros, pour développer un peu l'univers du jeu vidéo du même nom, qui est un...
Oui, alors c'est too much quand même. Hein.
Oui, de ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu la bande-annonce. Moi, personnellement, ça ne m'a pas donné
trop
envie.
C'est pas Chucky. Hein.
Mais par contre, l'univers du jeu, il est génial. Je n'ai jamais eu le courage de le faire ou de regarder un Let's Play Tour, mais ça avait marqué YouTube dans les années 2010-2015 et c'est devenu un vrai phénomène de société. Quoi. Donc, je trouve ça super cool que ça aille un peu au cinéma. Enfin, Five Nights at Freddy's, c'est une horreur qui joue sur l'immersion. Et c'est génial. C'est un jeu qui est vraiment beaucoup bien fait. Il y a plein de mystères.
Et ça t'a plus choqué, Vanessa, pour le coup? Parce que t'as l'air de dire que c'était trop.
C'est too much.
C'est too much dans le style et dans la mise en scène.
Les tueurs, c'est too much.
Oui,
quoi.
C'est les animatroniques.
Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, j'avais l'impression de voir un bibo, quoi, dans ces légendes.
Après, tout dépend de comment le film a été fait. Mais je peux te confirmer que quand tu regardes le jeu, c'est terrifiant. Hein. Ils font peur, ces trucs. Ils font vraiment très peur.
Oui, donc à pas mettre entre les mains des enfants. Tiens, joue.
J'ai plus rigolé. Mais après, je crois que c'est interdit au moins de 12
après,
ans.
Après, tu jouais pas. Celui-là. T'étais pas au jeu, t'étais au film. Je pense que le jeu...
C'est un jeu qui est tiré d'un film, en fait.
Non, c'est l'inverse. C'est un jeu, ils en ont fait un film pour expliquer le préquel de l'histoire, en fait, du jeu.
D'accord, ok.
Mais la mécanique... Enfin, peut-être qu'un jour, j'en parlerai un peu plus longuement. Non, sinon, moi, je propose... J'ai eu le choix. J'ai eu un gros choix cornélien à faire pour choisir de quoi j'allais parler aujourd'hui. Et je vous propose de découvrir ça après la pause musicale de notre chère Chloé, n'est-ce pas?
Oui, alors j'ai choisi une musique de notre spectacle qu'on joue cette semaine. Alors, quand vous entendrez ce podcast, vous pourrez toujours aller nous voir samedi soir au Fil à Plomb. C'est à 20h30. On y joue un concept qui s'appelle « La vie est une fête » avec ma compagnie Le Grand E-Théâtre. Samedi, c'est pas moi qui joue, mais mes collègues sont très bien... Vous ne serez pas déçus. Et c'est un concept qu'on a créé juste après le confinement. Moi, c'était les proches qui m'avaient le plus manqué parce que j'ai été confinée toute seule. La fête, danser, sortir, voir des gens. Et quand je suis arrivée pour créer un concept, j'étais là, j'ai envie de parler de ça, de l'amitié, du temps qui passe. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps dans ces 2 mois et demi, sans voir mes proches, sans... Et j'ai envie de danser, moi qui ne sais absolument pas danser. Donc on a créé tout ça, ça a donné La vie est une fête. Et la musique que je vous propose, c'est une des musiques de notre spectacle. Et c'est l'avant-dernière, je crois, et on danse dessus d'ailleurs. Et c'est Blinding Lights de The Weeknd.
Tiffaine, juste avant que tu commences, je voudrais juste te dire que Thanksgiving, la semaine de l'horreur, il est encore au cinéma. Et c'est ce soir, si vous voulez y aller, 20h, 22h45, samedi,
dans tous les cinémas ou dans...
Non, moi où je l'ai vu, au Gaumont-la-Bêche, okay. Par exemple.
Donc au Gaumont,
après,
Wilson,
au CGR Blagnac. Au CGR Blagnac, je pense aussi. Au Pathé Wilson, je pense pas. Je pense qu'il est plus au Gaumont-la-Bêche,
d'accord.
Là où j'ai été le voir, ouais.
D'accord, merci
super,
beaucoup.
Merci
ça
Vanessa.
Fait une heure de plus, c'est bien pour ceux qui veulent frissonner. Non, alors moi en fait, j'avais complètement oublié que je devais trouver une chronique à faire jusqu'à dimanche. Et du coup, quand je me suis souvenu qu'il y avait ma préférence, j'ai jeté un œil sur ce qu'avait été ma vie culturelle ces deux dernières semaines. Et du coup, j'avais le choix entre parler de la réappropriation culturelle et de la mystification de la culture maya pour en faire une prophétie annonciatrice de la fin du monde en 2012.
Okay. Ou parler... Vous avez 3 heures.
Ou parler de jeux vidéo. Je me suis dit que j'allais parler de jeux vidéo. Voilà.
Je pense que c'est une bonne idée.
Oui, après, bon, moi, je suis open pour tout apprendre,
et surtout
pour m'enrichir.
Surtout que les mayas, bon, comment dire, j'en mange depuis septembre, donc voilà, c'est... je peux faire une pause. Non, alors en ce moment, du coup, entre deux prises de tête sur des bouquins sociologiques, eh ben, je m'extasie sur des bébés loups. Je joue à Planet Zoo. Mmh. C'est un jeu, maintenant il n'est pas ultra, ultra récent, mais il y a un DLC qui va sortir, c'est une bonne occasion.
DLC,
rappelez-vous. Alors, DLC, c'est du contenu en plus. Du jeu, en
d'accord.
Gros. C'est par exemple, c'est comme quand tu achètes un jeu de société et qu'on te donne... Voilà, c'est une extension.
Okay.
Voilà, c'est la version, c'est le jargon des gamers. Donc Planet Zoo, c'est un jeu de gestion qui nous permet de gérer un zoo. Jusque-là, c'est dans le titre. Et c'est un jeu... Pour moi, c'est un peu le deuxième niveau des jeux de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas l'habitude de jouer, il y a des jeux de gestion qui sont assez simples à prendre en main avec pas trop, trop de paramètres à prendre en compte. Ça, c'est le jeu de Two Point Studio. Et puis, il y a les jeux, quand tu arrives à Planet Zoo, où là, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on a un mode histoire, un mode bac à sable et un mode avec des défis. On peut commencer par celui qu'on veut. Le mode histoire, c'est celui que je suis en train de faire. Il est assez, assez bien fait parce qu'il permet vraiment de bien prendre en main toutes les mécaniques du jeu. Donc, en fait, on a notre zoo. Il y a une énorme variété d'espèces, de styles, d'habitats, d'architecture, on peut vraiment... Il faut contrôler de A à Z, c'est-à-dire qu'on contrôle les conditions de vie des animaux, on est garant du condition de travail du personnel, est-ce qu'il y a assez de personnel, la satisfaction des visiteurs, le niveau d'éducation des visiteurs, donc est-ce que c'est bien pédagogiquement. Mais du coup, pour s'assurer de tout ça, eh ben, il faut des locaux, donc on construit les locaux, il faut bien construire tous les habitats pour les animaux, mais du coup, il faut qu'on fasse attention à ce qu'il y ait une alimentation électrique, donc là, pareil, on fait en sorte d'avoir des alimentations électriques, tout ça en gérant les finances, parce que forcément, il y a la aspect finance, et puis il faut aussi gérer si les visiteurs, bon, est-ce que les locaux sont bien propres, est-ce que il y a des points de nourrissage un peu partout, il faut engager du personnel pour s'occuper des animaux, il faut engager des vendeurs, il y a tout un truc, et c'est génial parce qu'il y a plein de c'est très varié, on peut vraiment, pour peu qu'on ait envie de jouer un petit peu avec l'architecture, le style et tout, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses super sympas pour le coup, parce que c'est quasi bac à sable en fait comme style. Au niveau des espèces, c'est très varié aussi. Et pour le coup, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, on a plusieurs types de ce qu'on appelle les biomes, donc c'est-à-dire les climats, en fait. Et il faut que, quand on adopte un animal, il faut que l'habitat, donc le zoo, soit adapté. Et ça, pour le coup, quand on est... Alors, pour se procurer des animaux, il y a plusieurs façons. Soit on peut se les procurer avec de l'argent, soit on peut se les procurer avec ce qu'on appelle les crédits de conservation, parce qu'il y a aussi un enjeu de conservation des espèces. Je pense que c'est quand même assez documenté comme jeu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et ces crédits de, de conservation. Après, on peut aussi en obtenir en relâchant des animaux dans la nature parce qu'on peut les faire s'accoupler. Donc, on peut voir des petits évoluer. Et tout ça, ça va avoir un impact parce que forcément, dans les conditions de vie de l'animal, l'animal il a des besoins sociaux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit assez, il ne faut pas qu'il soit trop dans le groupe. Donc, il faut voir si c'est des animaux qui sont seuls ou qui sont dans des grands groupes, dans des meutes. Il y a les conditions de température, conditions d'environnement, donc au niveau de la flore. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme type d'arbre et typiquement, je me suis retrouvée à faire un zoo dans un climat tempéré et j'ai vu un crocodile, j'ai adopté un crocodile, sauf qu'en fait, le climat n'était pas assez chaud. Donc voilà, typiquement, c'était pas du tout adapté.
Et c'est des vraies choses, c'est des vrais.
Je pense, à mon avis, oui.
Côté éducatif, du coup, côté documenté,
il y a tout un truc qui s'appelle la zoopédie qui permet d'avoir plein d'informations sur les aliments en question, à mon avis. C'est très documenté et les espèces sont très variées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs types de, je crois, il y a des grizzlies, des ours noirs de Taïwan, des trucs que j'ai appris que ça existait. Le cocoï de Colombie, c'est une genre de grenouille. Enfin, plein de trucs. Le mode de scénario est bien fait parce que voilà, au fur et à mesure des niveaux, c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
C'est super intéressant. Mais du coup, on peut y jouer enfin, parce qu'il y a quand même une partie administrative qui a l'air un peu lourde pour les plus jeunes.
Alors, non, pas tellement administrative.
Il faut gérer les entretiens d'embauche, tout ça. Il faut être ado au moins, non?
Pour faire du personnel, il n'y a pas besoin d'entretien d'embauche. Là, pour le coup, tu prends le personnel que tu veux, tu l'embauches directement. Ça, il n'y a pas à choisir. En fait, ce qui se rapproche le plus d'administration, c'est juste. On a tout un suivi des recettes et des déficits et des dépenses.
Oui.
Donc ça, c'est quand même assez bien indiqué. Hein, il y a quand même un côté un peu tuto et tout. Donc là, pour le coup, moi, je suis tout le temps en découvert. Par exemple,
Ah, bravo.
Oui, mais je fais attention à la qualité de vie de mes animaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et après, donc t'as tout le monde tout ça. Après, t'as des tutos, ils donnent des notifications souvent pour te dire que tel animal a tel besoin. Enfin, c'est quand même assez bien.
Tu peux embaucher, genre tu te trompes et il y a des petits personnages qui font n'importe quoi dans le zoo.
Non, par contre, il peut y avoir des manifestants quand les conditions de vie de l'animal sont trop basses. Quand le bien-être d'un animal
c'est
est trop
pas
basse,
mal, ça.
T'as
ça,
des manifestants qui viennent dans le zoo.
Ça va pas.
Petite dédicace à mon ami. J'ai une amie. Qui s'appelle Laetitia Pelé, je l'embrasse très fort, qui a parlé des conditions des animaux, de vie des animaux pour des tournages. Et elle a écrit là-dessus et ça n'avait pas été fait. Elle a créé une charte donc elle est à fond là-dedans et c'est vachement bien parce que c'est vrai que dans les tournages, depuis des années, on utilise des animaux.
Ouais,
mais c'est pas évident. On fait un peu n'importe quoi parfois.
Tout à fait. En fait, ils ont commencé à légiférer ça quand il y a eu un film qui a fait un énorme scandale parce que le réalisateur faisait carrément envoyer des animaux mourir à l'écran, des animaux même dans des explosions, enfin des trucs. Et ça, en fait, ça avait tellement choqué qu'ils ont fait une loi, et c'est depuis, en partie à cause du film, qu'on a vous savez, la petite phrase qui dit « Aucun animal n'a été maltraité durant ce tournage ».
Ouais, mais là, elle a vraiment carrément créé elle a écrit
les conditions,
et ça a été reconduit par Ecoprod, je crois, elle m'a parlé de ça. Mais bon, ça pourrait être intéressant de la faire intervenir un jour. Elle habite Paris, mais par téléphone,
ça peut être super intéressant, c'est clair.
Puis j'en parle là parce que je m'insère dans l'histoire.
Ouais, non, mais t'as bien raison.
Peut-être qu'elle connaît le jeu.
Oui,
je
ça m'étonnerait pas. C'est un petit peu connu dans les.
Et tu sais, les conditions d'animaux, c'est aussi au cinéma là avec le grand magasin. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Non.
Tout.
C'est une concierge en fait qui s'occupe d'un grand magasin. En fait, il y a plusieurs filles et du coup, ils accueillent. Donc, eux, ce sont des humaines. Et ils accueillent que des animaux. Les clients, c'est que des animaux. Et c'est un grand, grand magasin, les grandes surfaces, tout ça, où il y a des galeries. Et il y a plein de
commerciales.
Des shops, de centres commerciaux. Et ils passent leur temps. Et en fait, elles sont là pour trouver le cadeau idéal à la personne et tout.
L'animal, du coup. C'est les clients, c'est
à l'animal, ouais, tout à fait.
Okay.
Et ça met en avant la protection des animaux, l'aude à la nature et les rapports avec les animaux. Et voilà, et c'est nous, en fait, qui se plions en quatre pour exaucer le moindre de leurs désirs. Et à un moment aussi, on voit des very importantes personnalités, mais là, c'est animal. Et on nous explique, on dit qu'ils sont hyper importants parce qu'ils sont rares.
Et oui. Ils sont une espèce en voie de disparition. Donc, tu vois, il y a plein de messages.
Et c'est fait avec des animaux de synthèse, du coup, ou comment c'est...
Ouais, c'est un film d'animation.
Donc, ah, c'est un dessin animé.
Ouais, ouais, c'est un film d'animation japonais qui vient de sortir, là. Donc, j'en parlerai
dans
ma chronique.
Ah bah, tu vois, ça nous donne plein d'idées.
Ouais, complètement.
Ton jeu.
Ça, c'est une super idée. Mais en fait, ouais, il y a certains sites même qui le qualifient de simulation. Et c'est vrai que ça peut se rapprocher aussi de la simulation de gestion de zoo. Mais du coup, non, pour tout ce qui est personnel, c'est pas aussi complexe que ça. C'est, en fait, quand on a besoin, alors on a les soigneurs, les vétérinaires, les mécaniciens, les agents de sécurité, les agents d'entretien et les vendeurs. Et quand on a besoin, juste on clique et ça nous en fait popper un. Ça, il y a pas de, parce qu'il y a tellement d'autres choses à gérer. Et du coup, le jeu est assez satisfaisant parce qu'on peut, on a une petite caméra et on peut centrer la caméra sur un animal et on peut le regarder vivre sa vie. Et donc, moi, c'est comme ça entre deux histoires de Maya.
C'est pas ça ton histoire de loutre là. J'ai vu la dernière fois dans ton
Instagram.
Ah non,
Instagram. ça c'est encore autre chose. C'est des live Twitch. Sur Twitch, mais du coup, qui live en fait des animaux, en fait, tout simplement. On peut voir des espaces sauvages. Non, non, là, c'est vraiment...
Elle me fait rire, Tiffany.
Mais non, c'est trop bien.
Elle regardait des petites vidéos de loutres. C'était trop mignon.
Bah oui, il faut bien occuper ses insomnies. Mais non, là, je m'extasie sur des bébés loups. Voilà, je suis ravie avec la neige qui tombe. Et c'est super gratifiant. Et donc là, ils vont rendre un DLC. Ils vont sortir un DLC qui arrive le 13 décembre avec un nouveau biome, 8 nouvelles espèces et un nouveau scénario du mode histoire. Alors, ça va se passer en Eurasie, donc ça a l'air d'être assez varié, des conditions climatiques assez rudes. Alors, parmi les nouvelles espèces, on va avoir le bison d'Europe, le cygne tuberculé, le sanglier et l'ours lipu, par exemple. Parce qu'il y a d'autres types d'ours.
Le cygne tuberculé.
Oui, dit, il y a des trucs, je ne savais même pas que ça existait. typiquement, alors là, le niveau que je suis en train de faire en ce moment, c'est thème Afrique, donc c'est un genre de safari. Donc, en fait, il y a tout un parcours à faire de rails. En gros, ils t'introduisent au rail, donc j'ai des animaux partout, c'est un peu, voilà.
Ça existe vraiment, le cygne tuberculé, ça ressemble à un cygne.
Oui, c'est le cygne de base.
Ah oui, c'est le cygne de base, ok, d'accord. Je n'avais jamais entendu avec tuberculé.
Je pense qu'ils mettent les noms, parce qu'on a plusieurs, on a le grizzly, l'ours noir de Taïwan, d'autres trucs, il y a le loup gris, le loup machin, le loup, enfin, panthère des neiges, donc guépard, enfin, je pense que c'est pour nous mettre bien tous les différences en fait d'espèces. C'est pour ça, je pense qu'il doit quand même y avoir un côté très documenté. Et voilà, je fais ça entre deux prises de tête sur les Mayas, et ben je m'extasie sur des bébés loups.
Tu fais bien, voilà. Tu fais. En plus, on a parlé de la condition animale, et ça, c'est super
complètement
important.
Et c'est intéressant comme jeu, parce que je me renseignerai pour voir si c'est...
Peut-être pour les plus jeunes aussi, ça leur apprend aussi, voilà, ouais, si quelqu'un veut, s'il y en a qui veulent adopter des animaux... tu apprends certaines... Bon, tu ne vas pas adopter un cygne tuberculé ou un...
Alors, si on est un jeune qui a l'habitude de jouer, je pense qu'à 10-11 ans, il peut y aller. Mais il faut qu'il ait, faut qu'il ait déjà l'habitude.
C'est sur quoi tu as...
Alors, on peut se le procurer. Je sais que ces jeux-là, c'est Frontier Development, le studio. Je pense que c'est toutes les consoles sauf Switch et PC. Je vous conseille de le prendre sur PC. Parce que j'ai fait... Il y a un autre jeu du studio qui s'appelle Planet Coaster. C'est avec un parc d'attractions que j'avais pris sur PS4. J'y arrive pas. J'ai lâché l'affaire parce que c'est un jeu qui n'a pas été fait pour être joué avec une manette. Donc vraiment, je vous conseille d'aller sur PC. Vous pouvez le trouver sur Steam et le DLC là qui va sortir, on peut déjà le mettre dans la wishlist. Donc voilà. Donc c'est Planet Zoo et Frontier Development. Et c'est c'est vraiment gratifiant comme jeu. C'est complexe. Enfin, c'est complexe. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais il y a un côté, c'est un peu le level. Tu t'ennuies pas en fait. Il y a des fois, on peut passer le temps, mais c'est vrai que des fois, tu as tout le temps des notifications de dire tel animal, et puis tu te retrouves. Mais pourquoi mon animal, il est stressé? Je comprends pas. Pourquoi il a soif? Il y a de l'eau, là, je bois. Mais enfin, voilà, c'est. Oui, je m'arrache un peu le crâne sur mes Strongbook, ça s'appelait en plus. Au Strongbok, je sais plus.
Ton chat, il doit te regarder en disant mais qu'est-ce qu'elle trouve à ses louveteaux, je suis là enfin.
Oui, mon chat, elle vient carrément sur le clavier. Elle n'apprécie pas que je lui préfère des louveteaux.
Bah, c'est un peu normal.
Enfin voilà, peut-être que j'en ferai que j'en parlerai un peu plus, peut-être faire une petite émission ou un truc qui. Si une fois que j'aurai fini mode carrière, là je vais déjà m'occuper de Ronflou et mon compte dans le jeu. À des fois d'avoir de l'argent dans la vraie vie, je suis d'en avoir dans le jeu. Et je pense que sur ce, on va pouvoir terminer cette émission.
Oui, en plus moi je dois filer parce que je joue à l'autruche. C'est un bar. Pour ceux qui n'ont pas de sous pour venir au théâtre, ben, l'autruche, c'est gratuit. On est au chapeau.
Dans le thème animal.
Et donc, on joue tous les mercredis avec mon autre compagnie qui s'appelle Les Nous et les Autres, de l'improvisation. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fauché, voilà, vous pouvez quand même accéder à la culture.
C'est bien, ça reste dans le thème animal.
La connerie, en tout cas, plus que la culture.
Ça en fait partie.
C'est toujours bien les cons.
Ça en fait partie.
Donc, ben, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous écouter. On le dit jamais.
Bien. Bah ouais, c'est vrai, merci. Oui, c'est vrai. Hein.
On espère que ça vous plaît.
Encore une belle année. Ouais. On a passé encore une belle année.
2023.
Donc, c'est notre dernière en officie. On rend ça officiel.
Du coup, oui, je pensais qu'il en aurait une autre, mais oui, ça peut être.
On peut
la
prendre
dernière.
Un peu de temps pour nous aussi, pour se reposer. On reviendra à la rentrée.
Je suis complètement d'accord.
Avec plein d'idées, plein de choses à voir. De toute façon, pour les fêtes, là, vous avez plein de choses à voir. Je pense que vous n'avez besoin de nous. Tout va vous arriver. Vous allez avoir le choix.
Nous aussi, on a bien besoin
au
de
théâtre, au cinéma,
on a bien le droit de prendre des congés.
Exactement, et on vous retrouve à la rentrée.
Si on démarre 2024.
Ouais, passez de bonnes fêtes.
Passe de bonnes fêtes aussi, Vanessa. Et merci
bonne
à toi.
Bonne fête à vous, les filles.
Merci à toi, Léo, pour la technique.
Merci beaucoup, Léo.
Il fait un pouce, il va très bien.
Et on remercie encore Karine Bonneau aussi d'être venue.
Oui, c'était très chouette.
Au revoir à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site Esprit Occitanie ainsi que sur l'application. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre et on vous dit à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Bye bye.